22 octobre 1941. Ce que chantent les arbres de Montreuil le 22 octobre 2000. Corneille, corbeau de Déré, colombidée ont manifesté ce 22 octobre 1941 pour dessiner dans le ciel de Bretagne un arc de triomphe au-dessus de la sablière où 9 poteaux d'exécution et les lunettes de Pierre Guéguen, l'enseignant de Concarneau, témoignaient envers et contre tout de lendemain qui chante. Les fusils fascistes venaient de faire abdiquer à 3 vagues d'hommes ardents leur croyance en la lumière. Manif ailés, inscriviez-vous dans le ciel la lutte des classes ? Corbeau, corneille, pigeon, vous avez attendu que les 27 corps déchiquetés soient remis sur les camions qui les avaient amenés vivants du camp de Choiseul, où ils étaient otages. Vous les avez suivis, transformant par vos cris la route de Chateaubriand en élégie, et vous avez reformé le même arc de triomphe au-dessus du château antique du camp où, sur l'escalier d'honneur de l'ancienne salle des gardes, leurs corps ont été entassés pour la nuit. Les étoiles sont venues ensuite apporter leur témoignage, et comme s'il fallait conserver aux chiffres leur valeur rituelle, les 27 otages exécutés ont été répartis en groupes de 3 dans 9 cimetières différents des environs. C'était l'odeur du sang qui avait réuni tant d'oiseaux différents, devait dire par la suite les toujours sinistres historiens. En cet anniversaire du 22 octobre 1941, il n'y aura pas que leur voix. Il y aura celle d'arbres qu'on va planter. Parc des Beaumonts, avec les oiseaux de Montreuil en conciliabule tout autour. Et pour qu'ils soient entendus par tous, les combats que l'homme s'invente, les voix de tout ce qui vit, aime, fait de la joie et du chant sa croyance. Vous serez épicycle, c'est-à-dire cercle, dont le centre décrit un autre cercle et sur lequel une planète se déplace. Que disait ce jour-là aux arbres de Chateaubriand avant d'être fusillé l'otage Raymond Laforge ? Taisons-nous, écoutons le vent, les oiseaux, les insectes, nous vivrons désormais avec les forêts, les cours d'eau, le ciel. Répondez, arbre de Montreuil, répondez à l'instituteur communiste que tout ce qui fut parole d'espérance en cet octobre breton devant les poteaux d'exécution plantés à la sablière soit non plus commémoration, mais dialogue. Que soit dit, analphabet d'univers, ce que furent leurs raisons d'être et qu'elles deviennent raisons de combattre encore. Au moment où tous les sens du mot révolution ont pris leur retraite, chantez chêne, chantez être, chantez platane, chantez marronnier de Montreuil, la lumière des étoiles n'est pas seulement sur vous, elle est avec vous. Faite de simples noms propres qui, à peine lus, deviennent depuis l'automne des otages où vous avez été les caractères les plus brillants. Elle est avec vous. Faite de simples noms propres qui, à peine lus, deviennent depuis l'automne des otages que vous avez été les caractères les plus vibrants et les plus fraternels de toute une conception de l'homme et de l'autre. Sur vos troncs, telle la page blanche, lieu de rassemblement du futur, la lumière des étoiles de cet octobre breton fera des 27 noms de la sablière un poème qui fut un combat la résistance. Poèmes et combats, les syndicalistes ouvriers. Henri Barthélémy, 58 ans, chemin de fer. Maximilien Bastard, 21 ans, chaudronnerie. Jean Grandel, 50 ans, poste télégraphe. Jules Vercruis, 48 ans, textile. Désiré Granet, 37 ans, papier-carton. Charles Michel, 38 ans, cuirs et peaux. Raymond Tellier, 44 ans, imprimerie. Charles de la Vacquerie, 19 ans, imprimerie. Maurice Gardette, 49 ans, métallurgie. Jean-Pierre Timbaud, 37 ans, métallurgie. Eugène Kerivel, 50 ans, marine. Edmond Lefebvre, 38 ans, métallurgie. Victor Renel, 53 ans, chimie. Henri Pourchasse, 34 ans, service public. Julien Lepense, 34 ans, peinture. Poèmes et combats, les lampes de quartier. Titus Bartoli, 59 ans, enseignement. Jules Offray, 39 ans, enseignement. Marc Bourris, 34 ans, enseignement. Pierre Guéguin, 45 ans, enseignement. Hui Quang Han, 29 ans, enseignement. Raymond Laforge, 43 ans, enseignement. Maurice Tenin, 34 ans, médecine. Antoine Pesquet, 55 ans, médecine. Poèmes et combats, les croisés de l'enthousiasme. Jean Poulmarche, 31 ans, chimie. Claude Lallet, 21 ans, étudiant. Émile David, 19 ans, étudiant. Guy Moquet, 17 ans, étudiant. Associés au poteau d'exécution, ces noms, en leur splendeur de cône d'ombre projetée durant l'éclipse et leur mesure devant la mort, n'appartiennent pas au mirage gratuit, mais au miracle nécessaire dont une société... Associés au poteau d'exécution, ces noms, en leur splendeur de cône d'ombre projetée durant l'éclipse et leur mesure devant la mort, n'appartiennent pas au mirage gratuit, mais au miracle nécessaire dont une société faite de trous noirs. Excuse-moi, j'ai raté. Bon. Associés au poteau d'exécution, ces noms en leur splendeur de cône d'ombre, projetés durant l'éclipse et leur mesure devant la mort, n'appartiennent pas au mirage gratuit, mais au miracle nécessaire dans une société faite de trous noirs. En témoignent leur correspondance, les dernières lettres accordées comme un pourboire d'avoir vécu. Elles sont la révélation d'un univers sous-jacent que les otages de l'automne breton ont su inventer, mais qui échappe aux modes et aux lois d'un monde devenu autre aujourd'hui. Comment dans le poème « Que vous êtes autour de nous, martyrs de Chateaubriand » faire que le mot communiste de la moitié du siècle puisse rencontrer le mot communiste d'aujourd'hui ? 27 noms réunis dans un camp de concentration ont réussi à construire ce que d'autres, en liberté, n'ont jamais réussi à faire. Le communisme, espérance de l'homme. Au camp de Choisel, le manuel y était l'intellectuel. Et l'intellectuel devenait le manuel. Les deux, réunis, y devenaient jardiniers, cuisiniers, terrassiers, cultivateurs, menuisiers, vidangeurs, musiciens, chanteurs, comédiens, infirmiers. Les gendarmes eux-mêmes qui les gardaient s'y inscrivaient en paradoxe. Lorsqu'avec leur famille, ils venaient se faire soigner par les deux médecins détenus, Tenin d'Antony, Pesquet d'Aubervilliers, dans l'étonnant dispositif sanitaire qu'ils avaient mis en place. Un seul absent, le dentiste. Le rééquilibre de la mâchoire se faisait à Chateaubriand, mains liées, entouré de quatre gardiens armés. À ce quotidien, unanimement réinventé, après les rites policiers de la place des Appels, manuels et intellectuels construisaient ce qu'ils appelaient le parélie. Image fleuve du soleil, s'y retrouvaient les mathématiques, la physique classique, la chimie, l'économie politique, l'ornithologie, la sténographie, la langue française aux couleurs de la résistance, donnait hospitalité à l'allemand, à l'espagnol, au russe, à l'anglais, après le crépuscule, et l'organiser des voyages à travers le temps et l'espace sous forme de théâtre. L'entomologie se faisait entre les baraques, et les derniers mots de Raymond Tellier seront « Je songe aux promenades, aux champignons, aux discussions et à beaucoup d'autres choses ». Image inoubliable, ce jour-là, à l'appel de son nom, l'enseignant Laforge partit les bras ballants comme s'il lui manquait quelque chose. Tous savaient que c'était le livre qu'il portait toujours sous le bras, partout où il allait, dans le camp d'une baraque d'enseignement à l'autre. Aux emprisonnements, aux tortures, à la guillotine, inaugurée bien avant la venue des troupes allemandes par la République française et Édouard Daladier, son premier ministre. Ils opposaient la prise en main des baraques, des cuisines, de l'infirmerie, des ateliers, de l'entretien du linge, du nettoyage, des corvées, des vaisselles et des jardins possibles. Certes, les rations étaient maigres, mais bien préparées et somptueusement présentées. Les allées étaient ratissées, enterrées les détritus, comblées les trous. Le camp de concentration de Choiseul leur avait même concédé un espace consacré par eux à l'utopie, une bibliothèque. Les nourritures dont ils avaient tant besoin, la bibliothèque les fournissait. Chaque livre devenait le commencement de la résistance. À l'infini. Comment prononcer les assassinats de l'octobre breton en termes de lutte? Le combat pour les internés des camps pétainistes existait depuis bien longtemps. Ils pouvaient jongler suivant les années avec les grèves de la métallurgie, la cagoule, les manifestations antifascistes, le Front populaire, les croix de feu et les shows tristes de Daladier avec intermèdes interminables dans les maisons de passe carcérales, Santé, Fresnes, Clairvaux, Incourt, Fontevraud. Mais quels qu'en aient été les temps ou les lieux, c'était la lutte de classe. Souvent un habit de lutte finale qui fournissait les fleuves, les cours d'eau, les canaux et les égouts du paysage social. Deux antagonistes, comme si face au 22 octobre 1941, il fallait donner des signes à la répétition des affrontements, s'y retrouvaient chaque fois. David et Goliath. David, c'était Jean-Pierre Timbaud, l'homme de tous les combats de la métallurgie. Sa générosité lui vaut le reproche de trop se faire arrêter. Son combat, c'est celui de l'intelligence. Intelligence de classe. À Chateaubriand, il est plébiscité délégué de tous les détenus politiques et même celui des deux gendarmes parce que ce jour-là, leur revendication était juste. Goliath, c'est Pierre Pucheux, un normalien, représentant le comité des forges. Le patronat l'a fait nommer ministre de l'Intérieur de l'État pétiniste. En 1941, c'est lui qui dresse les listes d'otages, avec les préfets, comme homme de main. Pour Goliath, une seule finalité, décapiter la classe ouvrière française. Pour David, résister. La décapitation se fait cependant avec des nuances. Le plus jeune des otages, Guy Moquet, 17 ans, est envoyé à la mort par le ministre de la Défaite pour avoir écrit un poème d'amour filial à son père, député communiste enfermé à la Maison Blanche d'Alger. Win Quang Han, dont le pays est occupé par le bleu-blanc-rouge comme le bleu-blanc-rouge est occupé par la croix gammée, est envoyé à la mort pour avoir aimé une femme, la sienne, mais communiste, et de ce fait condamné à 20 ans de prison. Marc Bourris, le musicien des otages, qui dirigea toutes les Marseillaises en route vers la mort, lui, dont le regard rendait le monde meilleur, a été libéré le lendemain de son exécution par Pierre Pucheux. Comme trotskiste, la liste d'otages n'était que la fausse marseillaise du machiavélisme vichiste. Marc Bourris est toujours avec les siens et les siens avec lui dans l'histoire, l'infini et les champs de son pays. Le bleu est-il plus bleu ? Le blanc est-il plus blanc ? Le blanc est-il plus blanc ? Le rouge, plus rouge sur la casquette de Jean-Pierre Timbaud que sur la cagoule d'un ministrable pétainiste ? Impossible, à cause du mot martyr qui signifie témoin, le rouge résiste. Sur ma casquette, même marquée par le sang, je ne veux que des œillets rouges, avait déjà dit Jean-Pierre Timbaud aux femmes internées de l'autre côté du passage des fleurs entre deux baraques. Devant les fusils allemands, au moment de la salve, il en fera la couleur de tous. Vive le Parti communiste allemand ! À accueillir les 27 de Chateaubriand, deux assassinés, comme eux, pour la fête de l'homme et son langage. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Mes anges levant rouge et rouge-gorge dans un arc-en-ciel où les couleurs disent « Nous ne possédons un sens qu'en tant que foyer d'énergie. Comme la joie, nous n'acquérons notre sens véritable que grâce à la forme insurrectionnelle qu'elle renferme. Mais vous, arbre de Montreuil, dont tous les troncs sont dirigés vers ce ciel, pouvez-vous dire comment avoir fait des lendemains qui chantent avec des fils de fer barbelés comme portés ? Les calculs orbitaux des planètes, lorsque la réponse est nécessaire, font appel aux paramètres de la mécanique céleste. Pas vous ! Car il n'y a pas de réponse, mais un jeu de miroir sans fin qui s'appelle, s'interpelle, se répond, se détruit parfois et toujours se recompose. Dans la détresse, souvent, mais toujours dans la dignité, vous avez été le sourire du camp de Choisel. J'ai coronal ! Prolongement radial ! Non pour s'associer, mais pour annuler toute conformation quiescente. Comme une table équatoriale, support plan pouvant recevoir un ou plusieurs instruments d'observation. Charles Michel, champion de boxe, soumettant au chaos technique quelques-uns de ses confrères historiques... au cours des séances de 1940 à la Chambre des députés. Il avait installé le dernier jour au milieu de la baraque des otages sous forme de mots. Le bol de... tu arrêtes un instant. Je reprends. Parce que... Je m'excuse.
Tu veux reprendre ton souffle. Ouais.
Comme une table.
Reprise du poème, donc.
Comme une table équatoriale, support plan, pouvant recevoir un ou plusieurs instruments d'observation, Charles Michel, champion de boxe, soumettant au chaos technique quelques-uns de ses confrères hystériques au cours des séances de 1940 à la Chambre des députés, avait installé le dernier jour au milieu de la baraque des otages sous forme de mots, le bol de cigu de Socrate, tel qu'il figure dans Platon. Devant l'issue fatale de leur incarcération, ils signifiaient le refus de s'évader d'une mort injuste, parce que la mort est plus utile que la vue, parce que la mort est plus utile que la vie à la venue de la vraie justice. 54 jours après la Sablière, c'était de l'autre côté de Chateaubriand, la Blisière. Dans un pavillon champêtre au bord de l'étang, le médecin Fernand, 32 ans, de Nantes, écrivait son dernier combat. La mort naturelle libère l'humanité de ses fragments usés. La mort violente donne, par réaction, une énergie nouvelle à cette humanité. Toute ma vie, j'ai lutté contre la guerre et pour le progrès. Les morts sont de grands convertisseurs. Ma mort sera utile. Mais comment dire le refus de s'évader dans un camp ? La question se posait chaque jour à Choisel. Mais la réponse des 27 otages et de tous leurs camarades détenus était chaque jour unanime. La fête ! Mettre l'humour redoutable d'une situation tout aussi redoutable en musique. Chant de la Marseillaise et aux couleurs, en subtile communion avec les gendarmes qui les gardent, mais aussi accueil fleuri et fabrication de symboles de nourriture pour les femmes internées, souvent leurs compagnes. Exaltation des camarades communistes guillotinés par la justice de leur pays. Spectacle tragicomique de prise de conscience à propos de préfets qui remplaçaient les juges. Performance sportive sans aucun rapport avec le marché de la viande humaine droguée de l'extérieur du camp. Reconstitution de postes clandestins pour les concerts. Sérénade portée malgré les tirs des gardiens à la révolution en marche. Hommage rendu par la poésie aux arbres, aux oiseaux, à ceux qui luttent et qui meurent. Les corporations ouvrières défilent. Chaque technicien décore les bâtiments. Même lorsqu'elles s'inversent, la fête n'a jamais été aussi digne. Le commandant du camp et gendarme, Touya, annonce à l'appel du matin, le mardi 23 septembre 1941, que 19 internés doivent prendre leurs affaires pour s'installer dans la baraque qui va devenir celle des otages. Il donne 18 noms et après une pause dit « Le 19e est M. Timbaud. Comme il fait fonction d'homme de confiance des détenus et que tout en défendant vos intérêts, il s'est toujours montré d'une parfaite correction avec nous, je prends sur moi de lui éviter cette peine. Il restera dans la baraque. » Et les internés de Choisel, ce matin-là, de noter. Alors Timbaud, avec cette même puissance que lui connaissaient bien les métallos parisiens, « Hé, ça va pas les ménages? Vous me proposez une trahison? Si j'accepte, je deviens lâche. Je ne veux aucune faveur de ce genre. J'ai été désigné... Je serai avec mes frérots jusqu'au bout. » Et les syndicalistes majoritaires de l'enfermement d'expliquer, avec le mot frérot, Timbaud avait commencé à chanter l'Internationale ouvrière dès les grèves de 34. Il détrônait le mot camarade. Toutes les fois que le mot frérot butait sur une injustice sociale, il s'étalait sous forme de crachat sur la face humaine de l'injustice. Le jet de salive combattant faisait aussi pour Tintin partie de la fête. Intervient le gendarme qui, après la fusillade de la Sablière, s'était opposé aux soldats qui, avec une barre en fer, écrabouillaient la tête de Guy Moquet, estimé beaucoup trop grand pour le cercueil. Intervient le gendarme qui, après la fusillade de la Sablière, s'était opposé au soldat qui, avec une barre en fer, écrabouillait la tête de Guy Moquet, estimé beaucoup trop grand pour le cercueil au rabais qu'on lui destinait. « C'est trop pour un Français !»«
Ce n'est pas un Français !»«
C'est un communiste !» a répondu le soldat. 4 mois après, le gendarme désertait pour continuer avec les francs-tireurs de la forêt de la Berbérolle le combat de Guy Moquet. « Frères, oh combien de Chateaubriand, l'énorme densité du pulsar associée à sa rotation, des centaines de tours par seconde, provoque un enroulement de l'espace-temps. Vous êtes pour nous l'énorme densité du pulsar. » Dans la carrière, aux 9 poteaux d'exécution, vous avez fait de vos femmes, mères, épouses, filles, un hymne à l'existence. Il traverse notre vie de chaque jour pour aller bien au-delà du conflit entre l'histoire utile et l'histoire utilitaire. Chantez la femme, arbre de Montreuil, que toutes vos branches disent quel est le recueil de fleurs les plus belles qui ait été déposé au pied de la lutte de classe. Et en même temps, fleurs qui continuent à vivre et à dialoguer dans la langue française comme sur la scène des fêtes que vous inventiez pour résister. Fleurs, adieu. Les deux chers amours de ma vie, vive la France, vive le prolétariat international. Fleurs, ma chère Yvonne, adieu et du courage. J'en ai, la bonne cause triomphera. Mes dernières pensées pour tous les amis. La réplique, c'est Yvonne, emprisonnée à Rennes qui l'a donnée, avec un crayon prêté par un gardien. Mon Henri aimé, tu es délivré des misères où nous sommes encore, et tu t'en es sorti par le chemin le plus glorieux. Hélas, je serai heureuse de finir de même. Adieu, mon Henri, que ton nom soit inscrit dans l'histoire et que ton corps repose en paix, mon grand. Sois sûr, mon grand, si je sors d'ici, je prendrai moi-même la lutte sans hésiter pour la bonne cause. Comme tu dis, triomphe. Non. Sois sûr, mon grand, si je sors d'ici, je prendrai moi-même la lutte sans hésiter pour que la bonne cause, comme tu dis, triomphe. Ta dernière pensée m'engage et j'irai sans peur. C'est juré. Fleur, ma petite Lolo chérie, je m'excuse de la peine immense que je vais te causer. Dans quelques minutes, ton mari tombera la tête haute, le cœur solide, confiant dans l'avenir de bonheur qui règnera dans le monde. Fleur, mes deux chers amours, Fleur, mes deux chers amours, vous resterez mon rêve et pour toujours. Fleur, mon Yvonne, je t'ai toujours aimé. Ma dernière pensée va vers vous. Je ne tremble pas. Cette lettre est mal écrite parce que j'écris le long d'un mur. Fleur, ma chère Marguerite, ma fille Raymonde, c'est pour que vous soyez libre que je meurs, débordant de morale et de courage. Fleur, ma chère compagne, je meurs pour mon parti et pour la France. Adieu. Ce que je demande à toi, petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être. Dernière pensée, vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir. Fleur, ma Louise et maman chérie, ma main ne tremble pas. Plus que jamais, j'ai confiance en l'avenir. Fleur, ma chère maman, votre fils et frère vous envoient son dernier baiser. Hein? J'ose pas le dire à papa. Pour les détails complémentaires, demandez au curé de Béret. Fleur, ma chérie, j'aurais voulu que Jacqueline et son petit coffret, dernier souvenir de son papa, hein, comme Claude, son petit avion. Fleur, aujourd'hui, j'aurais vécu.
Tu n'auras pas honte de ton homme. Il te faudra plus de courage pour vivre qu'il ne m'en faut pour mourir. Fleur, cher, cher petit Géo chéri, je suis courageux. Sois courageux. Garde dans ton cœur le souvenir de celui qui t'aime plus que tout, toujours. Et Georgette répond, quand j'ai dû quitter notre chère maison d'Aubervilliers, j'ai tout emporté dans mon cœur. Le cabinet de travail, la bibliothèque, l'homme grave penché sur les livres et sur ses malades, le camarade, le frère, l'amant, le poète, le musicien, et la belle figure intelligence qui me conseille et me soutient quand je suis lasse et que je ferme les yeux. Toujours en moi résonnent ces paroles qui m'aident à surmonter toutes les adversités. Femme, n'écoute pas les épitoiements. Porte en toi le sourire comme une cocarde. Fleur, ma petite mère adorée, j'ai fait une paire de sabots à trèfle à quatre feuilles pour toi et l'hydravion pour mon cher petit frère. Songez que tous mes camarades pensent à vous. Fleur, ma chère Henriette, les mots sont inaptes à rendre compte d'une minute aussi intense. Excuse cette écriture hachée. J'écris sur les genoux, avec pour tout support un portefeuille. Fleur, chérie, ma fille adorée, ma sœur, encore un mot, puisqu'on nous fait attendre. Vite. Hein? Il faut que tu vives. Je t'ai toujours vue courageuse. Serre les dents comme tu les as serrées après la mort du petit. Et que la vie continue ardente pour l'avenir de ma fillette et de tous les enfants du monde. Au revoir, à jamais. Fleur, finis les beaux jours en famille. Je ne verrai plus mon beau Montreuil. Arbre, faites savoir partout que la langue française dans laquelle les mots des 27 otages du 22 octobre 1941 continuent à vivre. Jamais nous l'avons autant aimé que lorsque les points cardinaux de son territoire étaient annexés et qu'elle devenait silence de chaque côté d'une ligne de démarcation. 90 000 enfants perdus y croisaient le chemin d'une armée en déroute. L'armée en déroute est toujours là. Pour faire croire qu'elle a changé, elle a revêtu la vieille cagoule d'autrefois, mais avec les cornes du diable des 3W d'Internet par-dessus. Tous en habit d'hypertexte veulent ton assassinat, langue française. Faites savoir partout, arbres, et avec vous vos forêts, faites savoir aux cagouleurs en question. Relâchement des syntaxes, invasion des argots, des modes, des jargons techniques, des vocabulaires du sport, des loisirs, du spectacle et contre-feu institutionnel de l'enseignement. Que leur déroute a commencé avant même leur naissance à Chateaubriand le 22 octobre 1941. Vous pourrez même en apporter la preuve avec la lettre d'un des 27 fusillés à 21 ans. Que la route est jolie. Ah, vraiment, amis, chantons. Chantons de toutes nos forces. Mon Anouchka adorée, sois toujours pleinement heureuse. La vie est si belle. Nous gardons, oui, nous gardons nos rires et nos chants. Bonjour aux uns et aux autres, et à l'enfant que nous n'aurons pas. D'autres enfants chanteront avec vous, ma mère et ma femme adorée. Courage, joie, immense joie. Je vous adore toujours sans cesse. Je t'embrasse. Je te serre dans mes bras avec toutes mes forces. Vive la vie! Vive la joie et l'amour! Écrit au pied de l'un des 9 poteaux d'exécution, au milieu des ajoncs, des genêts et des ronces de la sablière sur la route de Chateaubriand. chanter, arbre de Montreuil. Notre fête, c'est d'être eux tous en ce moment. Comme ils ont été, nous tous, ce 22 octobre 1941.